Mémoire vive.
Présenté par Christelle Lepolotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Carlon pour son documentaire « J'ai rêvé d'Arménie » réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera diffusé le 17 décembre sur France 3. Le génocide arménien a eu lieu en 1915, il y aura bientôt 100 ans. Aujourd'hui encore, la Turquie refuse de le reconnaître et en France, la question de la répression, de la négation du génocide fait toujours polémique, comme en témoignent les débats houleux autour du projet de loi qui ont eu lieu en janvier 2012. Votre film, Jean-Pierre Carlon, donne la parole à plusieurs générations issues de la diaspora arménienne, les grands-parents qui ont été directement confrontés au génocide, les enfants qui ont essayé de faire parler leurs parents et les petits-enfants qui découvrent ou entretiennent cette mémoire toujours aussi présente. Vous les suivez à Marseille, à Valence, à Paris et jusqu'en Arménie, dans un récit qui retrace presque 100 ans d'histoire depuis ce 24 avril 1915. La violence du génocide, les longues marches jusqu'au désert de Syrie, l'arrivée en France, l'espoir d'un retour en 1947, l'Arménie soviétique, le tremblement de terre et la guerre avec l'Azerbaïdjan en 1991. C'est cette histoire qui va au fil du siècle forger l'identité de la diaspora arménienne. C'est bien la construction de l'arménitude que questionne votre documentaire et en filigrane l'impossible retour pour cette diaspora, à la fois fière de son identité arménienne et en même temps complètement intégrée à la société française. Avant toute chose, Jean-Pierre Carlon, comment est venue l'idée de ce documentaire ?
L'idée n'était pas de moi au départ. L'idée a été de Evelyne Julie, qui était productrice et qui avait vraiment soif de faire un film sur les Arméniens de son pays, enfin de la région où elle vit, c'est-à-dire dans le sud de la France, à La Ciotat, où les Arméniens se sont réfugiés pour trouver du travail dans les chantiers. Comme lorsqu'ils sont arrivés en 1920, à partir de 1920, ils sont arrivés et ils cherchaient, la première chose qu'ils cherchaient, c'était à se loger et à trouver du travail. Et donc la petite ville de La Ciotat, qui avait un chantier naval, a offert tout de suite beaucoup de travail à ces gens qui arrivaient et qui étaient en recherche de travail pour pouvoir ne serait-ce que se nourrir. J'ai commencé par tourner dans le sud de la France. Marseille, La Ciotat, rencontrer des gens, rencontrer le pasteur Léonian notamment, qui m'a mis en contact avec des gens qu'il connaissait. Donc on m'a ouvert des portes. Mais j'ai rapidement compris que le sujet dépassait les limites de La Ciotat, de Marseille, Valence. Il fallait remonter jusque le couloir rhodanien, toutes ces régions qui ont été empruntées. Ces réfugiés qui arrivaient, ces apatrides, puisqu'ils n'avaient plus de papier, plus rien. C'était des gens qui arrivaient avec leur valise ou avec rien et qui se sont retrouvés dans un pays dont ils ne connaissaient pas la langue. Enfin, voilà, donc en plus dans une période qui n'était pas facile, c'était au sortir de la guerre de 14. Donc une France aussi qui était en grande difficulté. Donc voilà, tout un contexte qui n'était pas forcément favorable. Mais bon, ils ont trouvé une terre d'accueil. Et voilà, c'est un peu ce que raconte ce film. C'est cette odyssée d'un peuple qui s'est trouvé éparpillé, une diaspora qui s'est formée petit à petit un peu à travers le monde et notamment bon, chez nous en France.
La perpétuation de l'identité arménienne pour la diaspora se fait principalement autour de la mémoire du génocide. Ce qui est très intéressant dans votre documentaire, c'est que l'on voit comment cette mémoire a eu du mal à émerger au départ. C'est-à-dire que les survivants du génocide ne souhaitaient pas en parler, qu'au contraire, ce qu'ils voulaient, c'était s'intégrer dans la société française et oublier ce passé. Comme cela a été le cas pour la Shoah, ce sont bien souvent les enfants, la génération suivante, voire les petits-enfants qui ont questionné. En fait, leurs parents, leurs grands-parents, pour se réapproprier cette mémoire. Vous en donnez d'ailleurs un exemple avec le témoignage d'Osvana Kalouskian qui avait 7 ans au moment du génocide et qui s'est tue au tout début à son arrivée en France.
Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Peut-être comme vous le savez, j'ai fait plusieurs documentaires sur la Shoah, notamment un documentaire que j'ai intitulé « Auschwitz, les mots pour le dire ». C'est-à-dire dans lequel je retraçais, puisque j'avais travaillé auparavant avec l'équipe de Spielberg pour sa fondation, où j'avais travaillé sur une centaine de témoignages, donc j'ai été en contact avec énormément de survivants. Et ce qui dominait dans leurs propos, c'était le fait qu'ils n'avaient jamais parlé de ça. Certains, devant la caméra, s'effondraient en larmes. Certains même avaient des gros malaises. Parce que parler de quelque chose qu'ils avaient vécu et qu'ils n'avaient jamais pu transmettre, c'était vraiment un traumatisme. C'était vraiment une déchirure à un moment où, des fois, les enfants qui étaient autour entendaient cette histoire pour la première fois. Donc quand j'ai abordé le film sur le génocide arménien, j'ai été confronté à la même problématique, à des gens lorsqu'ils sont arrivés en France, avaient autre chose à faire qu'à raconter leur histoire. De toute façon, il y avait peu de personnes qui pourraient plus les écouter. Exactement. Enfin, c'était pas, je dirais pas exactement, parce que les Français n'avaient pas été directement mêlés à l'histoire du génocide arménien. Mais on voit qu'après une telle souffrance, c'est difficile de trouver les mots, c'est difficile d'en faire porter le poids à leur descendance. Donc ils ont occulté cette histoire, ils se sont plutôt battus pour leur donner les moyens d'avancer dans la vie, quoi, de trouver eux-mêmes d'abord, de trouver du travail, et puis de donner une éducation à leurs enfants, de leur donner un confort, de leur donner les moyens d'avancer dans une société. Et de trouver leur voie dans cette société. Donc c'était plus à ce niveau-là. Et donc c'est ça aussi qui m'intéressait dans cette histoire, qui me rapprochait de tout le travail que j'avais fait auparavant, autour de la Shoah, parce que c'était vraiment le thème qui était fondamental dans l'histoire des films que j'avais voulu faire sur la Shoah.
Mais il y a un retournement, parce qu'on voit donc dans votre documentaire que certains enfants ne parlent pas l'arménien, c'est-à-dire que les parents qui sont arrivés n'ont pas transmis cette langue. Il y a maintenant des écoles bilingues à Mascaïne, à Marseille, créées en 1980. Vous avez interrogé des jeunes gens issus de la diaspora pour votre film. Est-ce que vous avez l'impression que l'identité arménienne est aussi présente, voire presque plus, puisque justement ils vont dans ces écoles, que leurs parents ?
C'est possible, oui. C'est possible. C'est possible que la troisième, la quatrième génération a besoin de racines, a besoin de se trouver une identité. Mais je dirais que il y a un brassage. Donc c'est pas évident pour tout le monde. J'ai rencontré certains jeunes. J'étais très étonné, quoi, qui ne pensaient qu'à une chose. Des jeunes filles qui pensaient qu'à une chose, se marier avec un Arménien pour perpétuer. Quelque chose, une identité, une culture, tout ça. Et puis d'autres qui me disaient, on vit plus dans les quartiers arméniens, on cherche pas forcément un Arménien. D'ailleurs, moi, je suis marié avec un Français qui n'a rien à voir avec les Arméniens. Donc il y a un brassage aussi qui se fait. Et ce repli identitaire, je l'ai pas perçu partout, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a complètement frappé, quoi. Je dois dire que aujourd'hui, par exemple, si on va dans les quartiers historiques arméniens, on voit bien qu'il y a un grand brassage, quoi. Les gens vont plus forcément habiter dans ces quartiers, ils sont dispersés. Il y a une évolution, la jeunesse aussi. Enfin, je veux dire, il y a une jeunesse qui évolue tout à fait normalement en se mélangeant. Je pense aussi qu'il y a un grand rôle de la religion qui a joué là-dessus. C'est-à-dire que moi, ceux qui sont très portés sur la religion, peut-être, vont aller plus se marier avec quelqu'un qui épouse la même religion, qui est dans les mêmes, coutumes, avec les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes passions, et puis la même recherche de l'identité. Donc voilà, quoi. C'est clair que on peut pas coller comme ça une étiquette. C'est pas possible. Je crois qu'ils sont aussi. Quand on m'a proposé ce film, d'ailleurs, je me posais la question, pourquoi faire un film sur les Arméniens ? Parce que je connaissais un tas d'Arméniens et je m'étais jamais posé la question de savoir parce que leur nom finissait en yan, je me disais, ils sont Arméniens. Mais pour moi, ils étaient tellement comme moi, enfin, je veux dire que ça me posait aucun. Je me suis jamais posé ce genre de questions, quoi.
Il y a une autre question qui est très présente dans votre film, c'est la question du retour. En 1947, il y a une première possibilité donc de retour en Arménie, avec la création de l'Arménie soviétique. Certains de vos témoins ont tenté l'aventure. Quel a été le résultat de l'expérience pour eux ?
Malheureusement, quoi, en tout cas celle que j'ai rencontrée, parce que je pouvais pas aller interviewer, c'était pas non plus je pouvais pas faire un truc exhaustif sur ce film, hein, je pouvais pas aller interviewer, j'avais déjà énormément de personnages, et donc je me suis limité à un témoin qui était une femme qui a mal vécu l'affaire. Bon, en plus, trouver des gens qui l'ont vécu, c'est difficile, parce qu'elle a 94 ans, on ne dirait pas, mais elle a 94 ans, et elle se rappelle très bien de cette histoire. Elle a été entraînée là-bas à l'âge de 20 ans, en 47, je pense.
Elle venait de se marier,
c'est son mari, lui, qui avait ce désir fou de retourner en Arménie, et quand Staline a ouvert les portes de l'Arménie, a appelé à ce retour pour repeupler l'Arménie, nombreux sont les Français qui ont décidé de plier bagages et de partir là-bas. Malheureusement, à leur arrivée, ils ont beaucoup déchanté, parce que certains avaient emmené tous leurs outils de travail, des usines quasiment mises en boîte sur le port de Marseille et en destination de l'Arménie, et arrivé là-bas, sur les quais, on leur a tout confisqué. Parce que c'était le régime soviétique et il n'y avait pas de propriété, tout est parti à la collectivité, ils n'ont rien retrouvé de leurs affaires, et certains comme elles se sont retrouvés à vivre dans des caves, un enfer, quoi. Et donc, mais ce n'est pas une généralité non plus, parce que d'autres ont vécu une vie heureuse, se sont retrouvés là-bas. Ça dépendait aussi du milieu social, des attentes. Un ouvrier, peut-être, n'avait pas un espoir. Elle, la femme que j'ai interviewée, c'était une pianiste. Elle avait un espoir de monter dans la société, d'avoir une vie agréable en France et tout. Se retrouver là-bas, dans des conditions terribles, jeune mariée, à vivre dans la même chambre que sa belle-mère, dans le même lit. Avec sa belle-mère, c'était une situation atroce, quoi, après 2 mois de mariage. Donc c'était un peu une vision extrême. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, et surtout les enfants qui sont nés là-bas, de parents qui étaient partis, eux, les enfants ont vécu ça tout à fait normalement, comme des enfants. Ils ont vécu, c'était leur pays, ils ont connu que ça. Puis certains sont revenus comme Georges, le pianiste qui est dans mon film, qui est revenu et qui a refait sa vie ici, mais qui garde un bon souvenir de ce pays, quoi, et de cette époque.
Il y a un autre moment fondamental pour la construction de cette identité arménienne basée sur la volonté de reconnaissance du génocide. C'est les années 70 avec la Zala et la lutte armée.
Oui, comme il est dit dans le film, il y a eu un ras-le-bol, quoi, de ces gens qui n'arrivaient pas à se faire entendre et voir que, vu qu'il y avait ce négationnisme de l'État turc par rapport au génocide, qu'on ne parlait jamais de ce génocide qui avait été complètement occulté, on n'en parlait nulle part, ça n'avait jamais figuré dans les livres d'histoire. Donc ils réclamaient un peu justice, et ça en est arrivé jusqu'à des extrémités quand il y a eu tous ces mouvements au Liban. La Zala est née, si je ne me trompe pas et si on ne me dément pas, dans ces régions-là, quoi, quand il y a eu l'intifada, tout ça, quand sont nées des révoltes au Liban. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et c'est surtout aux États-Unis que ça a commencé à prendre vraiment forme au niveau du terrorisme, et ça s'est répandu en France, en Suisse, à droite, à gauche, quoi. Et en France, on a connu des attentats meurtriers, donc voilà, ils se sont fait connaître. Les attentats meurtriers n'ont pas été approuvés par la communauté dans son ensemble. Si le mouvement a été soutenu, il n'a pas forcément été complètement... approuvé dans la forme qu'il a pris au niveau terrorisme.
Oui, c'est principalement l'attentat d'Orly.
L'attentat d'Orly, effectivement, qui a mis un terme à ses activités, et une prise de distance, je pense, de la diaspora par rapport à la Zala.
Et puis il y a aussi 1991, qui correspond à l'indépendance de l'Arménie, mais aussi au début du conflit
avec les
Azéris. C'est aussi l'occasion pour certains membres de la diaspora de s'engager concrètement, c'est-à-dire pas seulement d'un point de vue humanitaire, comme ça a pu être le cas autour du tremblement de terre, mais là, véritablement concrètement, aux côtés de l'Arménie.
Oui, là c'est une situation complexe, parce que c'était un petit peu le... Je pense que je ne suis pas historien, ni... trop versé dans cette histoire, mais Je pense que c'est l'URSS qui a tiré les ficelles de cette guerre et qui s'est, enfin, qui espérait. Il y avait les Azéris, eux, étaient très pro-turcs, toujours dans l'espoir d'un pan-turquisme, d'un rapprochement avec les Turcs. Il y avait cette enclave du Karabakh qui était un enjeu terrible. Et puis il y avait probablement l'histoire du pétrole, il y avait le gaz, il y avait enfin, des enjeux géostratégiques autour de cette région. Et les Arméniens ont fait corps, ont fait front et se sont battus pour récupérer ce petit morceau de terre qui était à 90% occupé par des Arméniens. Et ça a donné l'occasion à une guerre terrible qui a duré plusieurs années et qui dure encore. Le problème du Haut-Karabakh n'est toujours pas réglé, bien qu'ils aient demandé leur indépendance, comme vous l'avez dit. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été proclamé, mais tous les jours il y a des morts, tous les jours il y a des gens qui se font tuer, toutes les familles ont perdu quelqu'un dans cette guerre. Il y a eu autant de déplacés d'un côté que de l'autre, donc du côté azéri, il y a eu énormément de déplacés, on peut pas nier, mais occulter aussi cette réalité, c'est que dans ce genre de conflit, toute la population civile est touchée de part et d'autre. Donc c'est un problème grave et bon qui pourrait être réglé, mais aujourd'hui il y a des enjeux géostratégiques qui pèsent, je pense, et le régime en place en Arménie, je pense, ne favorise pas, je prends peut-être des risques à dire ça, mais il y a trop de corruption, trop d'enjeux de corruption en Arménie aujourd'hui pour que ce régime trouve une solution, je pense. En tout cas, bon, par rapport, on le verra, par rapport à la reconnaissance du génocide et par rapport au rapport avec la Turquie, il y a ce phénomène qui fait que l'Arménie est toujours sous embargo. Donc cherche à s'ouvrir, cherche un poumon de respiration vers l'extérieur. Et peut-être qu'on se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas... Si le problème, par exemple, du négationnisme et du génocide, si ce problème doit être réglé par les Arméniens ou par la diaspora, quoi.
Pour revenir à votre film, Jean-Pierre Carlon, il y a un témoignage extrêmement intéressant donc, de Stéphane Idjeyan qui s'est engagé dans la lutte armée, qui a été présent aussi en 1991, je crois plutôt comme témoin, comme oui, journaliste au moment de la guerre, et qui est assez révélateur de cette évolution au cours du siècle de l'identité arménienne, de ce qu'elle peut signifier, comme si pendant longtemps l'identité était basée sur le passé, c'est-à-dire sur le génocide, et que soudainement elle surgissait dans le présent et que du coup elle nécessitait un engagement direct. Et il pose aussi cette question de comment on fait finalement pour sauter le pas entre un engagement pour l'Arménie en tant que membre issu de la diaspora et puis la question du retour définitif qu'il pose concrètement.
Ouais. Je dois dire que la rencontre avec Stéphane c'était quelque chose de magique parce que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un de vraiment profondément intéressant, sur le plan humain, je dirais que c'est quelqu'un d'un écorché vif, c'est quelqu'un qui a vécu cette histoire vraiment dans ses tripes, quoi, qui est...
Mais il y a toute la contradiction de cette
mais
histoire.
Mais oui, qui a forcément, parce que il a qu'une envie, c'est de vivre parmi les siens, mais lorsqu'il est en Arménie, il se sent pas chez lui, quoi, parce que l'Arménie historique, c'est pas l'Arménie d'aujourd'hui, quoi. L'Arménie historique, c'est en Turquie, et donc il est chez lui sans être chez lui. Stéphane Idjeyan ne représente pas la diaspora. Comme il dit à un moment, qu'est-ce que c'est la diaspora? On est là, on s'engraisse, on est loin. Enfin, on vit. Les gens sont français, quoi. Ils se sont complètement intégrés. C'est une intégration complètement réussie, ils le disent. Hein. Donc ils n'ont pas, même si ce qu'il faut voir, c'est que, ce que j'ai compris, c'est que si cette Arménie, ce petit bout de terre disparaît, ils n'ont plus d'existence en tant qu'Arméniens. C'est le seul petit bout de terre qui les rattache à leur arménité. C'est-à-dire que c'est comme si demain la France n'existait plus et puis on se réclame français. Mais on est français, c'est quoi notre pays, quoi? Et donc c'est symbolique, quoi. Je dirais que c'est un symbole de leur arménité.
Jean-Pierre Carlon, où en est-on actuellement de la répression pénale de la négation du génocide en France?
Alors, comme vous savez, la loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel, alors qu'elle avait été votée par le Sénat et par le Parlement.
En janvier
2012. Donc c'est une grande déception, parce que, comme le disait Serge Karlfeld, s'il n'y avait pas eu la loi Guesso, le négationnisme aurait fait son lit en France. Et c'est vrai que c'est une loi symbolique. C'est pas une loi qui va tout régler, mais disons que elle évite que certains écrits, notamment négationnistes, perdurent, comme ça avait été le cas avec la Shoah. C'est une loi très importante parce que elle est, sur le plan symbolique, elle est très forte, et je pense que c'est la seule chose qui pourrait aujourd'hui apaiser un petit peu la douleur des Arméniens par rapport au génocide.
Et la diaspora continue de se battre pour cette loi ?
La diaspora effectivement continue de se battre pour cette loi, et pas que la diaspora d'ailleurs. Je pense qu'au niveau des élus, au niveau de que ce soit des députés de droite comme de gauche d'ailleurs, se battent toujours pour que cette loi avance.
Je vous remercie Jean-Pierre Carlon. Je rappelle que votre film « J'ai rêvé d'Arménie », réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé sur France 3 le 17 décembre prochain. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.